selon leurs espèces et regroupés en gros en trois catégories. Les bêtes sauvages, le bétail et puis tout ce qui rampe, remue, au fond tout le monde, des insectes, peut-être des vers de terre, etc. Nous avons donc tout ce monde animal terrestre qui est mentionné. Et puis alors au verset 26, nous disons, alors je vous fais une traduction littérale un peu développée par moment, et Dieu dit, faisons l'homme ou l'humanité, c'est le mot Adam qui est employé, qui peut avoir le sens collectif, qui est à la fois le nom propre, d'après les chapitres qui suivent, du premier homme, et aussi un nom qui, dans l'Ancien Testament, plus d'une fois, est employé de façon collective. Donc on aurait le droit de traduire l'humanité, aussi bien que l'homme. Lorsqu'on traduit l'homme, cela peut être avec le sens générique, l'homme en général. Alors Dieu dit, faisons l'homme en notre image, comme notre similitude, notre ressemblance. Je crois que « en » et « comme » ici ont une valeur qu'ils peuvent avoir en hébreu, qui implique que l'homme est l'image, que l'homme est la similitude, la ressemblance vivante de son créateur. Il n'est pas fait d'après une image qui serait autre que lui, ou bien il n'est pas fait en image de telle sorte qu'il y aurait un élément de sa personne qui serait l'image et que le reste ne serait pas l'image en lui. C'est lui qui est l'image. Il est l'image que le Seigneur suscite. Et je crois qu'au chapitre 5, j'anticipe, parce que ce n'est pas tout à fait notre sujet, je peux tout de suite le dire, qu'au chapitre 5, nous avons la clé de cette façon de parler. Nous voyons que Adam a engendré un fils comme son image, en sa ressemblance. La même formule est employée, avec simplement les deux prépositions équivalentes interverties, la même formule est employée pour le rapport entre le père et le fils. Parce que le fils est l'image vivante de son père, tel père, tel fils. L'engendrement fait surgir dans la vie des hommes l'image vivante d'un premier, d'un père. Alors on pourrait dire que l'homme est suscité par Dieu comme un quasi-fils terrestre. Bien sûr, ce n'est qu'une créature, donc le mot fils ne conviendrait pas tout à fait. C'est pour ça que je dis quasi-fils, comme un quasi-fils terrestre. Il est donc suscité comme image de Dieu, comme ressemblance vivante de Dieu. Donc Dieu dit, faisons l'homme en notre image comme notre ressemblance, et qu'il domine, alors ici nous avons un pluriel, et qu'il domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui, tous les reptiles qui remuent, ou toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Là, c'est la domination sur tous ces êtres vivants et sur toute la terre qui est mentionnée tout de suite après le privilège de la création en image de Dieu. Je ne pense pas qu'on doive dire, comme certains ont suggéré, que c'est simplement le fait de dominer qui fait que l'homme est image de Dieu. Moi, je dirais plutôt que c'est la conséquence de son privilège. Dieu le place comme un quasi-fils sur la terre, et puisque Dieu est le Seigneur de tout, il va donner une seigneurie dérivée, une seigneurie image à ce quasi-fils terrestre sur la terre et sur les animaux terrestres.
Pourquoi c'est au pluriel qu'il domine ?
Alors, comme le mot Adam a valeur collective dans bien des passages, il est fréquent de le trouver avec le verbe au pluriel. Et je pense que si le pluriel est utilisé, c'est pour nous montrer que ce privilège n'est pas celui du premier homme seulement, mais de l'humanité. Ce privilège de domination qui est une conséquence de la création en image de Dieu. C'est comme ça que je comprends en tout cas. Puis, on continue. Et Dieu créa, le verbe très fort, créer l'homme, Adam toujours, ou l'humanité, en son image. En image de Dieu, il le créa, singulier. Mâle et femelle, il les créa. Là, il y a quelque chose de très intéressant, un passage au pluriel, dans le même verset, et avec le même verbe créer. Et les deux termes employés, je vais y revenir tout à l'heure, ne sont pas homme et femme, pas les mots habituels pour homme et femme, que nous trouverons d'ailleurs au second chapitre, c'est mot pour hommes et femmes, mais mâle et femelle, ce sont des mots plus crus en un sens. Et je crois que ça a une signification dans ce texte. Nous allons essayer de le voir. Et je continue de lire jusqu'à la fin du chapitre. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre, et assujettissez-la. C'est un verbe très fort qui évoque le geste du vainqueur, plaçant le pied sur le cou du vaincu. C'est vraiment assujettir, faire sentir sa maîtrise à la terre. Et dominer, alors le même verbe que tout à l'heure, que nous avons lu au verset 26, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui remue sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe ensemençant sa semence qui est sur la surface de la terre et tout arbre qui a en lui un fruit d'arbre portant sa semence, pour vous, cela servira de nourriture. Et puis, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de lire la suite, qui concerne la nourriture des animaux. Voilà le texte, donc du premier chapitre, de ce que j'appelle, dans mon livre Révélation des origines, la première tablette, parce que sans doute, elle a été écrite d'abord, cette parole sur des tablettes d'argile, la première tablette de la Bible. Alors, pour notre sujet, que nous apprend ce texte ? Il me semble que la formule clé que l'on trouve au verset 27, mâle et femelle, il les créa, a d'abord pour fonction de souligner que la différenciation des sexes est un fait fondamental de l'existence humaine et un fait que Dieu a voulu. Je crois que c'est là la première chose qui saute aux yeux. Il est dit finalement fort peu de choses sur les caractéristiques de l'humanité. Ce sont seulement les faits fondamentaux qui sont retenus dans ce passage. Il s'agit de dire l'essentiel concernant l'humanité. Or, dans cet essentiel se trouve la division des sexes. Mâle et femelle, il les créa. Cela s'oppose, me semble-t-il, parmi les modèles, je peux déjà le dire, au modèle identitaire, au modèle de ceux qui considère que finalement la différence entre masculin et féminin est tout à fait superficielle. Un détail d'anatomie, et puis finalement, ça ne touche pas vraiment l'essentiel de l'être humain. La place qui est donnée ici à la différenciation, mâle et femelle, il les créa, montre que pour Dieu c'est important, que cette différenciation interne de l'humanité compte pour beaucoup aux yeux de Dieu, et qu'elle fait partie de sa création, qu'elle est donc bonne, qu'elle est vraiment selon la sagesse et la bonté du Créateur. En particulier dans la tradition de la pensée grecque, on a tendu souvent à attribuer un coefficient péjoratif à la sexualité, à cette différenciation, à considérer qu'elle a quelque chose de honteux. Il y a même un père de l'Église qui, sous l'influence de la pensée grecque, a conclu que cette différenciation était un effet de la chute, qu'elle avait été produite par le péché. Et il s'appuyait, n'ayant pas lu son texte assez attentivement, sur cette idée que, avant Genèse 2, l'homme contenait en lui-même, les caractères des deux sexes n'étaient pas séparés, qu'il était à la fois mâle et femelle, et que par conséquent, il n'y avait pas de véritable division des sexes dans l'humanité. Et il pensait que c'était dans la suite seulement que cette division s'était produite. Ça paraît extrêmement gros. Et je pense, n'est-ce pas, qu'il n'a pas lu attentivement parce qu'il ne savait pas l'hébreu. C'est Grégoire de Nice, c'est Saint Grégoire de Nice, il a été canonisé par l'Église. C'est Saint Grégoire de Nice qui a dit cela au quatrième siècle après Jésus-Christ. C'était un grec qui était complètement immergé dans la culture grecque, qui ne savait pas l'hébreu. Luther a considéré que peut-être la grande cause, une grande cause, disons, des déviations de la chrétienté après le Nouveau Testament a été l'ignorance de l'hébreu. Les pères de l'Église, là, pour la plupart, ne savaient pas l'hébreu. Il y en a eu quelques-uns seulement. Origène, Jérôme, oui, savaient bien l'hébreu, mais les autres, non. Et cela colorait leur façon de lire la Bible, les empêchait de vraiment bien interpréter les passages, et je pense qu'ici ça a joué. Il n'a pas vu, ce que je vous ai fait remarquer tout à l'heure, que l'on passe au pluriel, mâle et femelle, il les créa. Bien sûr, la première fois dans le texte, il créa l'homme, c'est un singulier, il le créa à l'image de Dieu, mais dès qu'il est question de la différenciation des sexes, mâle et femelle, alors c'est le pluriel qui est employé pour écarter l'idée de l'androgyne, de cet être mixte qui serait les deux à la fois. Alors, il faut bien se rendre compte que cette idée de l'androgyne, qui est les deux à la fois, a séduit un très grand nombre d'hommes dans toute l'histoire de l'humanité. Qu'on trouve cet idéal de l'androgyne dans beaucoup de religions, beaucoup de sagesse, et que certains de nos jours encore se laissent fasciner par cette image. Je l'ai vu par exemple chez un philosophe qui a du renom, chez Berdiaev, Nicolas Berdiaev. Il exalte cette idée de l'androgyne primitif. Si je peux extrapoler très, très vite, ça concerne même son sujet, donc il ne faut pas que je développe avant que nous arrivions aux conclusions, mais je crois que ça correspond au vœu d'autosuffisance de l'humanité. Donc au vœu foncier de l'idolâtrie ou de l'autolâtrie. La différenciation des sexes mâle et femelle, le fait qu'aucun individu humain ne soit l'un et l'autre, signifie finalement qu'il y a dans les relations entre individus humains comme un reflet de la relation entre Dieu et l'homme. Aucun individu humain n'est suffisant en lui-même. C'est une parabole du fait que l'humanité n'est pas suffisante en elle-même, qu'elle a besoin du vis-à-vis avec Dieu, avec le vrai Dieu. Et si vous suivez alors la logique de cette image-là, vous vous rendez compte que l'idée de l'androgyne correspond à l'idée d'une humanité qui n'aurait pas besoin de Dieu, qui serait son propre Dieu, qui serait entièrement suffisante en elle-même. Ce qui est l'idée même de l'idolâtrie. Donc ça va loin, cette histoire de l'androgyne. Et c'est pas par hasard que dans tant de religions, tant de philosophies, on est séduit par cette image. Alors elle est, ça semble-t-il, exclue ici par la Bible, et Grégoire de Nice n'avait pas vu assez clairement. Nous affirmons donc à l'écart de ce texte, comme premier enseignement, que la différenciation masculin-féminin est primordiale, elle appartient aux premières dispositions du Créateur pour sa créature humaine, et qu'elle est bonne. Cela me semble exclure le modèle identitaire, au moins dans toute sa force. Ce modèle qui considère que la différenciation est tout à fait secondaire dans la vie humaine. Il est possible que si les termes crus sont employés, mâle et femelle, que j'ai mentionné tout à l'heure, ce soit pour bien souligner que c'est vraiment cette différenciation dans son caractère le plus concret qui a été voulu par Dieu. C'est cela même qu'il a créé. Mais il est possible qu'il y ait à ce propos une pensée supplémentaire. Elle n'est pas fortement exprimée, mais il se trouve que le mot que l'on traduit femelle, disons, a un caractère imagé en hébreu qui est indubitable, et c'est une forme qui vient du verbe qui signifie perforer. Donc c'est vraiment une allusion très précise à la disposition des caractères sexuels primaires. Et certains ont prétendu, mais alors là, mes plus gros dictionnaires hébraïques ne permettent pas de l'affirmer de manière péremptoire, qu'il y a quelque chose de correspondant aussi pour le mot mâle, ici. Alors qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, je crois que ça implique l'idée de complémentarité. Ça implique l'idée que les deux sexes sont faits l'un pour l'autre, et pour s'unir, dans la pensée divine. Donc l'idée que la différence, qui est d'abord marquée, que Dieu a voulu, pour affecter l'humanité, que cette différence est une différence pour la complémentarité. Alors c'est important parce que par rapport au quatrième modèle que nous avons mentionné, ce modèle indépendantiste, anarchiste, qui refuse l'idée de complémentarité, alors nous avons une donnée ici, une donnée contraire à cette idée de l'indépendance C'est pour qu'ils soient liés l'un à l'autre, qu'ils sont différents, masculin et féminin. Ça, ça me paraît aussi ressortir de ce verset. Maintenant, il y a un point qui doit être traité aussitôt après ce commentaire sur la formule même, mâle et femelle, il les créa. C'est le rapport à la première partie du verset. Créé en image de Dieu. Dieu créa l'homme en son image, en image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Y a-t-il un rapport? Bien sûr, il pourrait se faire que le texte biblique ici se contente d'additionner des pensées qui n'ont pas de lien entre elles. Premier fait important, créé en image de Dieu. Deuxième fait important, créé mâle et femelle, et puis c'est tout. Pas de lien spécial entre ces deux traits, vous voyez. Ce serait possible, mais c'est quand même assez peu probable. Quand on met deux choses à côté l'une de l'autre, c'est généralement quand même que on met en pensée un lien entre elles, un certain lien entre elles. Surtout quand c'est répété. Or, en Genèse 5, c'est justement répété. On retrouve l'affirmation de la création en image de Dieu et l'affirmation mâle et femelle, il les créa. Et au début de Genèse 5, vous le trouverez. Alors, quel est le lien, s'il y a un lien? Si on peut en supposer un, quel est le lien? Karl Barth, le grand théologien du XXe siècle, a assuré le succès d'une théorie toute récente. Il y en a eu deux précurseurs au XXe siècle aussi pour ces théories de Barth. Karl Barth a essayé de plaider que c'était le fait pour l'homme d'être différencié sexuellement qui faisait de lui l'être en image de Dieu. Que la deuxième partie du verset 27, en quelque sorte, explique la première. Il le créa à son image, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il le créa mâle et femelle. Alors, c'est une théorie tout à fait révolutionnaire que Barth, avec son génie, développe, essaie de rendre persuasive, mais personnellement je ne suis pas persuadé. Je ne crois pas que cela tienne bien. D'abord, il me semble que Barth suppose que la deuxième partie du verset doit expliquer la première, mais que ça c'est pas évident. Que le lien soit un lien d'explication entre les deux n'apparaît pas dans le texte lui-même, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est donc projeté dans le texte par Barth. Ce n'est pas quelque chose de condamnable quand il n'y a pas de mots précis pour indiquer le lien, de supposer que ce lien peut être un lien explicatif. Mais enfin, disons que c'est quand même un peu fort pour cette théorie-là à laquelle personne n'avait pensé jusqu'au XXe siècle.
Je comprends, parce que les animaux aussi sont mâles et femelles.
Alors,
ils sont pas à l'image de Dieu.
Alors voilà, ça c'est la deuxième objection que l'on a est déjà émise contre la théorie de Barth, et je crois que M. Berger a tout à fait le doigt sur une faiblesse de la théorie de Barth. Alors, il faut bien dire que la théorie de Barth, qu'il expose dans le troisième volume de la dogmatique en grand détail, premier tome, que cette théorie de Barth est plus compliquée que ce que je viens d'en dire de façon très très résumée. Souvent on la résume comme je le fais, mais en fait il dit l'homme n'est pas l'image de Dieu, même il n'a pas l'image de Dieu, il est créé hors relation avec l'image de Dieu qui est Jésus-Christ. Et le fait d'être pour lui mâle et femelle est comme une flèche qui le rapporte à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un peu plus subtil, et c'est comme ça qu'il peut dire, bien sûr les animaux aussi sont mâle et femelle, mais pour eux, parce qu'ils ne sont pas dans cette même relation à Jésus-Christ, ça ne joue pas le même rôle, ça n'a pas ce lien à l'image de Dieu que l'on trouve pour l'homme. Et à mon avis, il y a au moins un passage qui bloque Barth, qui vraiment montre qu'il s'est trompé. C'est un passage que nous allons réétudier, d'ailleurs, puisqu'il fait partie de ces textes principaux du Nouveau Testament. Le passage d'1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit que l'homme, et l'homme distingué de la femme, est l'image de Dieu. L'image et la gloire de Dieu, dit-il. Alors, l'apôtre Paul, qui se réfère évidemment à la Genèse, là, ne dit pas que c'est la différenciation des sexes, que l'homme et la femme ensemble sont l'image de Dieu, de sorte que l'un des deux ne pourrait pas l'être. Et puis ne dit pas à l'image de Dieu comme une référence à Jésus-Christ, vous voyez. Mais il dit l'homme est l'image de Dieu, dans Corinthiens 11. Alors ça ne va pas du tout avec la thèse de Barth. Et il s'en est bien rendu compte, parce qu'il essaie, montrant ainsi son embarras, de dire que l'homme, dans ce passage d'1 Corinthiens 11, c'est Jésus. Mais dans le contexte, rien ne suggère que que cet homme, ce soit Jésus, qui ne doit pas se couper les cheveux, etc. Vraiment, ça ne paraît pas du tout conforme au développement de la pensée de l'apôtre. Nous y reviendrons plus tard à ce passage, c'est pour ça que maintenant je ne le relis pas avec vous, mais il reste, c'est pour moi le signe clair de l'échec de la thèse de Barthes. Il est obligé vraiment de tourner autour de ce texte de 1 Corinthiens 11 de façon assez misérable parce que vraiment il ne cadre pas avec son interprétation. Donc ça ne peut pas être ça. Pas être ça dans Genèse 1. On pourrait être tenté d'adopter au contraire une interprétation qui met en opposition la première partie du verset et la deuxième. Au lieu de dire l'homme est image de Dieu parce qu'il est mâle et femelle, on pourrait dire l'homme est image de Dieu bien qu'il soit mâle et femelle. Puisque le lien n'est pas indiqué. Mais je pense que cela n'est pas non plus suggéré par le texte. Et que cette relation d'opposition entre la première partie et la deuxième devrait être indiquée par un mot au moins pour que nous ayons le droit de retenir cette interprétation. Ce serait dans le sens plus facile à comprendre et plus conforme à la manière de penser de beaucoup de générations et de beaucoup de peuples. Mais je ne pense pas que ce soit quand même une interprétation légitime, parce qu'il n'y a pas de mot qui insinue l'opposition ici entre la première partie et la deuxième partie du verset. Alors qu'est-ce qui reste comme possibilité? Il semble qu'il y a une possibilité très simple. Et quand même, plus c'est simple, plus c'est probable. Hein, il faut essayer toujours de trouver le plus simple. Une possibilité très simple, c'est de comprendre que le lien est le suivant. Le texte biblique, l'auteur inspiré, veut nous faire comprendre que l'homme et la femme participent également de ce privilège d'être en image de Dieu, comme sa ressemblance. Oui, alors c'est vrai, nous allons avoir à traiter de ce passage de la première aux Corinthiens, mais l'apôtre Paul ne nie pas que la femme soit image de Dieu, il ne le dit pas, mais il ne le nie pas non plus. Son propos là est de montrer qu'en tant que femme, elle a une relation à l'homme qui fait d'elle la gloire de l'homme. Voilà ce qu'il dit. Alors nous aurons à revenir sur ce passage, c'est vrai, mais il me semble que l'on ne peut pas la faire dire à Paul qu'il exclurait le privilège d'être en image de Dieu pour la femme. Il l'affirme pour l'homme seul dans son texte, c'est vrai, mais il ne semble pas qu'il l'exclue pour autant. Et c'est pour ça que je me sens libre de recommander la façon qui me semble la plus simple de comprendre Genèse 1, à savoir que dans un monde où beaucoup doutaient de l'entière humanité de la femme, de son égalité métaphysique, pourrait-on dire, avec l'homme, de sa dignité devant Dieu. Le texte nous précise que cette humanité en image de Dieu, elle est faite des hommes et des femmes, des deux sexes, de telle sorte qu'on n'a pas le droit d'exclure la femme de ce privilège-là, comme c'était sans doute la tendance d'un certain nombre à l'époque. Ah, ça me paraît l'explication la plus simple. S'il y a un lien entre la première partie et la deuxième partie du verset, il me semble que c'est peut-être celui-là. Avec une confirmation, la conséquence n'est pas restreinte au seul sexe masculin. C'est à ceux qu'il avait créés, masculin et féminin, que Paul, que l'Éternel, d'après le texte, s'adresse, en les bénissant, en leur disant de fructifier et de dominer sur la terre entière. C'est aux deux conjointement, sans faire ici de différence. Alors ça me paraît une confirmation que le sens du lien entre 27a et 27b est bien celui que je propose, à savoir que l'homme et la femme participent ensemble du privilège d'être en image de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui soit réservé au sexe masculin dans ce passage. Alors, si nous considérons les modèles que gardons à l'esprit pour bien repérer les réponses bibliques à nos questions, il me semble que nous devons dire que là, il y a quelque chose qui va un peu plus dans le sens du modèle identitaire, c'est-à-dire l'affirmation qu'il y a une possession de la commune humanité pour l'homme et la femme. c'est le plan qui est pris à cœur par les promoteurs du deuxième modèle. L'humanité, l'essence humaine est commune. Oui, ça c'est vrai. C'est le privilège d'être en image de Dieu qui est ultimement l'essence de l'humanité dans les perspectives de Genèse 1. Et cela est masculin comme féminin, féminin comme masculin, avec la conséquence de la domination sur la terre et tous les animaux, etc. Il me semble que ça va, donc ça fait un petit pas, alors que précédemment c'était la différence qui nous paraissait surtout mise en valeur, elle est primordiale, mâle et femelle. Ici, il y a l'élément d'identité qui n'est pas à nier, qui trouve sa place aussi dans ce premier chapitre. À savoir, donc, que le privilège d'être en image de Dieu n'est pas réservé à l'un des deux sexes, avec la conséquence de la domination sur la terre. Alors j'ai lu, sous la plume d'un auteur féministe, dans une revue de théologie australienne, un argument de plus que je ne retiendrai pas pour ma part, mais que je vous signale, qui essaie de plaider que la femme a part à l'autorité, aussi bien que l'homme, et également avec l'homme, d'après ce premier chapitre de la Genèse, en disant, voilà, la domination, le privilège de domination est donné à la femme aussi bien qu'à l'homme. L'argument est destiné dans cet article d'un certain Kevin Giles, à exclure l'idée d'une autorité particulière de l'homme dans l'ordre créationnel par rapport à la femme. Alors il me semble que c'est une conséquence qui est indûment tirée de ce passage, car l'autorité qui est en cause ici, c'est l'autorité sur le monde extérieur, sur les animaux, et rien n'est dit sur la structure d'autorité à l'intérieur de l'humanité, au sein de la société humaine, entre l'homme et la femme. Rien n'est dit, ni en faveur d'une égalité, ni en faveur d'une dissymétrie, d'une différence. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin que cette constatation, me semble-t-il. Le premier chapitre ne me semble pas en dire plus que ce que nous avons déjà mentionné. La différenciation des deux sexes est très importante, elle est voulue de Dieu dès le commencement, et elle introduit une complémentarité. Cependant, elle n'empêche pas que l'homme et la femme soient également humains, avec le privilège humain par excellence d'être en image de Dieu. Et qu'ainsi, donc, ils exercent conjointement l'autorité humaine sur le monde inanimé ou animé, mais infra-humain. Voilà tout ce que dit le texte. Maintenant, quant à une différence entre l'homme et la femme, dans l'exercice de l'autorité en particulier, le texte ne dit, me semble-t-il, rien du tout.
Est-ce qu'on peut dire que l'image de Dieu, c'est la relation qu'il y a entre l'homme et la femme
Alors ça, c'est une...
Ils sont l'image de Dieu.
Oui. Alors ce n'est pas exactement la thèse de Barthes, c'est une thèse que certains commentateurs de Barthes, certains critiques de Barthes ont essayé d'introduire. Par exemple, Émile Brunner l'a suggéré. Brunner, un autre théologien de tendance néo-orthodoxe, comme on l'a appelé, disant c'est l'image de l'image, au fond. Le fait d'être en image de Dieu pour l'homme, c'est d'exister dans le vis-à-vis de Dieu. Or, le fait d'être face à face pour l'homme et la femme est une image de cette image-là. Vous voyez, bon, c'est une idée qui me paraît intéressante. Je suis prêt à souscrire sans être sûr que ce soit vraiment dans la pensée du texte. Je crois que c'est en accord avec le texte, mais ce n'est pas forcément dans le texte. Oui. C'est pas une pensée que l'auteur, je crois avoir été Moïse, vous savez, que l'auteur a eu consciemment lui-même. Il me semble.
Ne croyez-vous pas qu'il y a eu un changement à partir de la chute?
Ah, nous avons une idée, oui, bien sûr. Voyez, nous prenons Genèse 1 d'abord, Genèse 2, Genèse 3. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps d'atteindre Genèse 3, certainement. Mais voilà, en ce qui concerne Genèse 1, je crois que là, j'ai à peu près défini tout ce que j'ai trouvé. Monsieur Moukari. Prenons Genèse 1 d'abord, Genèse 2, Genèse 3. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps d'atteindre Genèse 3, certainement. Mais voilà, en ce qui concerne Genèse 1, je crois que là, j'ai à peu près défini tout ce que j'ai trouvé. Monsieur Moukari.
Vous avez dit que ce texte ne parle pas de l'autorité de la femme, que sur le plan qu'il aurait extérieur, nommément sur le plan de la domination de la nature. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment être humble à ce plan?
C'est possible de parler plus fort, enfin,
tout simplement dire que le plan qu'il aurait extérieur dans la société, en dehors de leur relation
mutuelle.
Par exemple, dans la société, plus générale, dans l'État.
Ben, il ne me semble pas que ce texte a cela en vue. C'est vraiment une domination sur les oiseaux du ciel, les animaux, tout ce qui se remue sur la terre. Et par conséquent, le problème des aménagements intérieurs à la société humaine me semble tout à fait laissé de côté. Là.
Il n'y avait pas de société.
Ben, il y avait une micro-société, puisqu'ils étaient au moins deux. N'est-ce pas? C'est une micro-société, mais... Oui. Mais c'est pour ça que je crois qu'on ne peut rien tirer de ce texte, de Genèse 1, sur le sujet des rapports d'autorité intérieurs à l'humanité. Il me semble qu'il n'en dit rien, de Genèse 1. Nous allons voir que pour Genèse 2, c'est très différent à mes yeux, en tout cas. Mais pour Genèse 1, c'est ce que j'enregistre. Alors, je ne sais pas si vous trouvez un élément qui n'aille pas dans le sens de mes paroles, mais... Si vous ne réagissez pas autrement, si vous n'avez pas de modification du schéma que j'ai suggéré, alors nous pouvons passer au second chapitre. Il s'agit de ce que j'appelle la deuxième tablette, à partir du verset 4, écrite dans un tout autre style, qui n'est plus un simple récit de création, mais un récit des commencements de l'histoire. Après le panorama de la création, nous avons maintenant le récit des commencements de l'histoire humaine, qui reprend le sujet en détail de la création de l'homme et de la femme, mais qui va le lier, l'enchaîner au récit des événements successifs. Alors, vous savez donc que Dieu a pris l'homme en poussière, qu'il l'a façonné, qu'il lui a insufflé l'esprit. Je pense que ce n'était pas encore la meilleure traduction dans ce contexte du mot hébraïque. Puis qu'il a planté un jardin en Éden, un mot qui évoque les délices. Un jardin avec tous les arbres les plus agréables et un grand fleuve quadruple pour l'arroser. Et en particulier, deux arbres parmi tous les autres, l'arbre de vie, représentant la communion avec le Créateur, et l'arbre de la connaissance du bien et mal, qui est l'arbre de la prétention à l'autonomie et à la direction de sa propre vie. Et puis, alors nous lisons à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme, Adam, et il le déposa, on pourrait traduire de cette manière, dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Oui, alors là, il y a les clauses de l'Alliance, je passe encore là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Et puis, au verset 18, et l'Éternel Dieu dit, pas bon être de l'homme par lui-même, être de l'homme tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme étant Adam, ici, dans ce texte. Je ferai pour lui une aide ou un secours, Ezer, c'est le nom qui se trouve dans Eben Ezer, la pierre du secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce mot Ezer, je lui ferai une aide ou un secours, comme son vis-à-vis. Le mot hébraïque, employé ici, Neged, s'emploie comme une préposition, comme une locution, et se traduit vis-à-vis. Donc, nous pouvons en français garder exactement la tournure hébraïque. C'est rare qu'on puisse le faire en traduction, mais là, on peut le garder exactement. Parce que le mot Neged, employé ici, a valeur de nom, on peut l'utiliser comme un nom, mais on l'utilise aussi couramment comme une locution, exactement comme vis-à-vis en français. Alors, comme son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu façonna du sol ou hors du sol, toutes les bêtes des champs, c'est-à-dire les bêtes sauvages et tous les oiseaux des cieux, et il les amena vers l'homme pour voir ce qu'il appellerait pour lui, ce qu'il appellerait pour chaque animal, ce qu'il énoncerait comme don, pourrait-on traduire. Et tout ce que l'homme énonçait comme nom, pour un être vivant, cela, son nom. Là, c'était son nom. Et l'homme appela des noms pour tout le bétail, et pour les oiseaux des cieux, et pour les bêtes des champs, et toutes les bêtes des champs. Et pour homme, il n'y a pas d'article, alors qu'il y avait un article précédemment, et pour homme, il ne trouva pas d'aide, de secours, comme son vis-à-vis. Formule donc importante qui rappelle celle du début du paragraphe. Une aide comme son vis-à-vis. Donc, il fait la revue de tous les animaux, donne des noms, mais il ne trouva pas pour homme, pour un homme, pour l'absence de l'article évoque peut-être l'abstraction, un vis-à-vis humain. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil, un sommeil de type surnaturel sur l'homme, et il s'endormit.
Anesthésie.
Oui, oui, c'est ce que parfois certains ont suggéré. Oui, c'est un mot qui évoque un sommeil très, très lourd. Vous voyez. Et il prit une de ses côtes, le mot en hébreu faisant jeu de mots comme pour côte et côté en français, et il referma la chair à sa place. Littéralement sous elle, mais se traduire à sa place. Et l'Éternel Dieu construisit la côte qu'il avait prise de l'homme en femme. Et il la conduisit vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. À celle-ci, il sera appelé, on l'appellera, femme, car de l'homme, celle-ci a été prise. Et le mot femme et le mot homme sont ici manifestement en jeu de mots. Isha pour femme et ish pour l'homme. Le A final étant habituellement la marque du féminin en hébreu. En fait, il s'agit d'un jeu de mots parce que ce n'est pas le simple féminin du mot homme. C'est une autre racine étymologiquement. Mais enfin, ça se présente comme un féminin. Et il y a eu au moins un traducteur qui a essayé de rendre le jeu de mots en français. Bon, il y en avait plusieurs. Dans une vieille traduction du XVIIe siècle, je crois qu'on avait traduit Homès, on l'appellera Homès, parce qu'elle a été prise de l'homme. Un traducteur contemporain, un professeur à l'université de Louvain, dit on l'appellera la mariée parce qu'elle a été prise du mari. Pour, alors là, évidemment, on change un peu d'homme à mari ou marié, mais c'est pour faire comprendre le jeu de mots qui est ici dans l'original. Et il l'amena donc vers l'homme. Et l'homme dit donc cela, verset 24, c'est pourquoi homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair unique. Et ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'étaient pas honteux. Voilà donc ce passage. Alors que nous apprend-il à propos de la place de la femme que nous voulons considérer. Alors il me semble que nous pouvons dire qu'il implique lui aussi d'emblée l'importance de la différenciation des sexes, qu'il la considère aussi comme un fait primordial de l'humanité et voulu par Dieu. En effet, cette histoire que nous venons de lire représente le couronnement de l'œuvre créatrice de Dieu dans le schéma du second chapitre. Et tout spécialement, Dieu a souligné qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est une expression forte pour désigner une œuvre qui en elle-même, étant l'œuvre de Dieu, était belle et bonne. Comme elle est incomplète, Dieu dit pas bon. Et s'il le dit, c'est vraiment que cette différenciation homme-femme, pour lui, a de l'importance. Donc de nouveau, nous nous trouvons dans une donnée du texte contre le modèle identitaire, qui joue contre le modèle identitaire. Je pense qu'on peut dire ça. Mais on remarque aussitôt que l'accent sur la différence qui est impliquée, la différence est impliquée ici, ne serait-ce que par les mots différents, Isha et Ish. Les femmes sont deux mots différents dans le texte. Cette différence n'est pas mise en valeur, n'est pas du tout montée en épingle, en quelque sorte, comme elle l'est dans le premier chapitre. Ouais, elle est impliquée, elle n'est pas niée. Mais alors que le premier chapitre, d'emblée, la soulignait, avec ses deux termes assez crus, mâle et femelle, ici, pratiquement rien n'est dit à son propos. Le lecteur le sait bien que les hommes et les femmes sont différents, mais ce n'est pas souligné du tout, au contraire. S'il est très important que l'homme et la femme aient été mis en face l'un de l'autre par Dieu au commencement, si c'est cela qui permet à sa création d'être bonne, donc c'est très important, le texte ne met pas du tout l'accent sur la différence entre eux. Et au contraire, il met l'accent, ça c'est le deuxième point, sur leur similitude, sur leur possession d'une commune humanité. Je crois qu'on peut dire que c'est l'accent qui apparaît comme accent majeur dans ce texte de Genèse 2. Où est-ce que ça apparaît ? Eh bien, ça apparaît d'emblée dans la formule de l'homme saluant l'arrivée de la femme, puisqu'il dit « os de mes os, chair de ma chair ». C'est vraiment là l'affirmation de l'entière solidarité de la communauté de nature. C'est là-dessus que l'accent porte. Et cela apparaît non pas d'une manière indépendante de cette formule de l'homme, mais dans tout le scénario, pourrait-on dire, du paragraphe que nous venons de lire. Tout est calculé dans ce récit pour faire prendre conscience du fait que l'humanité est radicalement différente de l'animalité et que la femme est indispensable à l'homme en tant précisément qu'humaine, semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, défile tous les animaux. Il affirme son droit de domination sur tous ces animaux, conformément au premier chapitre. Il leur donne des noms, mais il ne trouve pas ce secours qui viendrait combler sa solitude. Il y a un fossé qualitatif infranchissable entre tout ce monde animal et l'homme. Et alors, enfin, Dieu suscite la femme, il la bâtit comme un autre lui-même de l'homme, puisque la côte c'est le côté, c'est l'autre soi-même. Il paraît qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas si M. Mougari pourra nous le confirmer, que les Arabes peuvent dire « il est ma côte » pour dire « il est mon autre moi-même, il est mon meilleur ami ». Dieu, donc, donne à l'homme un secours qui est de même nature que lui, où il va pouvoir entièrement se retrouver. Os de ses os, chair de sa chair. C'est, semble-t-il, indubitablement l'accent principal dans ce second chapitre. Et bien sûr, il a une très forte importance pour le débat sur la place de la femme. C'est une chose là tout à fait certaine. Alors, on pourrait aussi, mais c'est moins net, trouver cette même idée de la communauté de nature dans l'expression même « son vis-à-vis ». L'idée de vis-à-vis, beaucoup de traductions emploient la notion de correspondance là, ou même, second, on disait semblable à lui, l'idée de vis-à-vis est elle-même favorable à l'idée d'une communauté de nature. Et puis aussi le fait que le nom de la femme dérive de celui de l'homme dans le jeu de mots que nous avons, Isha, Ish. C'est encore une fois suggérer la communauté. Donc ça c'est le grand apport, mais ce n'est pas l'apport unique de ce second chapitre, de la seconde tablette. Important de la différenciation, sans doute, mais la différence elle-même n'est pas mise en valeur. C'est que l'homme et la femme sont ensemble humains. Alors, le troisième grand enseignement, nous n'avons pas le temps de l'aborder aujourd'hui, et c'est sans doute celui qui pourra susciter le plus de débats. C'est ce que j'appellerais, moi, la dissymétrie entre l'homme et la femme. Bien que la différence entre eux ne soit pas mise en valeur, leurs situations sont dissymétriques, ne sont pas les mêmes dans le récit. Et je pense que ça va introduire la question de l'autorité à l'intérieur des rapports humains. Justement, cette dissymétrie, on ne la trouvait pas dans le premier chapitre. Il y avait la différence dans le premier chapitre, mais pas la dissymétrie. C'était tout à fait symétrique, mâle et femelle. Il les créa. Dans le deuxième chapitre, la différence n'est pas mise en valeur, mais nous allons trouver, je crois, une dissymétrie, une non-symétrie. Mais cela, alors, c'est pour notre étude du mois prochain. Bon, c'est l'heure maintenant. Je ne veux pas empêcher quelqu'un qui aurait une objection à ce que j'ai dit, pas sur la dissymétrie, mais sur ce que j'ai dit précédemment, de l'exprimer.
Je peux dire, en droit, pour dire épouse, si on voulait traduire littéralement, ça veut dire celle avec qui on partage par moitié.
Oui, c'est intéressant. Voilà. Vous savez qu'on dit en français donc ma moitié, c'est un langage un peu populaire, et que les Anglais, eux, plus galants, disent ma meilleure moitié, pour parler de leur épouse. Oui, je crois que vous avez là tout à fait raison, et que si Dieu l'a fait au commencement, peut-être va-t-il le faire aussi dans sa pédagogie à l'égard des individus au cours fil de l'histoire. Souvent Dieu d'ailleurs, en bon pédagogue, nous fait désirer ses dons pour que nous les apprécions plus, que nous sachions en jouir davantage. C'est aussi un des sens d'ailleurs de la prière de requête. Il nous donne bien des choses sans que nous les demandions, mais justement ces choses-là que nous ne demandons pas, que nous ne désirons pas, nous ne les apprécions pas à leur juste valeur. Et nous ne pouvons pas lui rendre grâce autant que nous devrions. Alors là, on voit cette pédagogie divine à l'œuvre pour l'homme au commencement.
Est-ce que le mot homme, j'ai entendu dire ça, je ne sais pas ce qui est vrai, le mot homme ne vient pas du mot humus?
Si, c'est une part, alors vrai, pour le français, et la dérivation latine, d'après ce que j'ai lu, homo, homme et humus sont des mêmes racines, et c'est vrai aussi pour l'Ancien Testament, c'est-à-dire que Adam est manifestement lié à Adama, qui est la terre, qui se trouve, quand il est dit qu'il a pris l'homme de poussière hors de la terre, du sol, c'est le mot Adama. Et manifestement, là, il y a une volonté de jeu de mots. Peut-être d'ailleurs que tout à fait étymologiquement, c'est de l'idée de rougeur que tout vient. Donc le mot Adam n'aurait pas été forgé à partir de Adam à la terre, bien qu'il y ait ce jeu de mots dans le texte de la Genèse. Les deux auraient été forgés à partir de l'idée de rougeur, parce qu'il y a d'autres mots, même de même racine qu'on trouve, toujours pour la couleur rouge. Il y a dame, le sang, où la première syllabe est tombée, le sang qui est rouge. Il y a Edom, le rouquin, Edom le rouge, on disait Dany le rouge, et qui vient aussi de cette même racine. Alors, la terre est rouge, c'est pas de la latérite, mais enfin c'est quand même plutôt rouge, l'homme est rouge, en particulier si vous tailladez sous la peau, c'est très vite rouge, l'homme est rouge, de toute façon. Même pour ce qu'on appelle la race blanche, comme on dit, en fait c'est pas du tout blanc. L'évêque Festo Kivangere, vous savez, de l'Ouganda, il dit mais vous n'êtes pas blanc, vous êtes rose. C'est un de ses thèmes par lesquels il détend ses auditoires. Mais c'est vrai, c'est le rouge qui est caractéristique.